Merci d'écouter RFI. Il est 22h en temps universel, à Paris 23h.
24h en France.
Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité française. Prenez place, on est ensemble pour la prochaine demi-heure.
Mathis Limano.
L'actualité de ce lundi 30 décembre, c'est la visite de François Bayrou à Mayotte. Le Premier ministre a promis de reconstruire l'archipel en 2 ans. Il a arpenté le territoire accompagné de plusieurs ministres. Au programme, une visite d'usine de dessalement, un collège ainsi que l'hôpital de campagne. Reportage à suivre dans l'établissement. Plusieurs annonces également. Tous les foyers de nouveau raccordés à l'électricité d'ici fin janvier. Une loi d'urgence présentée vendredi en Conseil des ministres. Le chef du gouvernement qui veut reconstruire Mayotte en 2 ans. Également à la une, 17 accusés dans le procès des viols de Mazan font appel. Un nouveau procès qui devrait se dérouler fin 2025. Dominique Pellicot, lui, n'a pas fait appel. Vive critique du président algérien hier contre la politique coloniale française, vous l'entendrez. Et puis en fin d'édition, on revient sur l'année 2024 du cinéma français. Une année riche.
RFI.
Avant de quitter Mayotte pour la Réunion, François Bayrou a annoncé une batterie de mesures plus de 2 semaines après le passage dévastateur du cyclone sur l'archipel. Le Premier ministre a promis de reconstruire Mayotte d'ici 2 ans. À court terme, c'est le retour de l'électricité dans tous les foyers d'ici fin janvier et une loi d'urgence qui sera présentée vendredi en Conseil des ministres. Plusieurs annonces qui ont ponctué une journée passée à arpenter le territoire accompagné de plusieurs ministres. François Bayrou a visité une usine de dessalement d'eau, un collège à Mamoudzou ainsi que l'hôpital de campagne installé après le cyclone, une structure d'urgence qui vient en soutien à l'hôpital de Mamoudzou largement endommagé. Sur place, la question des soins est urgente, mais cet hôpital de campagne n'a pas vocation à durer dans le temps. Reportage RFI, Lola Fourmi.
Un plan en 4 pages et 9 points clés sur l'électricité, l'eau, les télécoms, le logement, les écoles, la sécurité, la santé, les transports et l'économie. Un plan préparé en amont mais aussi modifié en cette fin d'après-midi, car si les ministres ont visité ce matin une usine de dessalement d'eau, puis un collège et enfin l'hôpital de campagne, ils ont consacré leur après-midi à des réunions stratégiques avec les représentants des acteurs du territoire. Parmi les mesures que l'on peut retenir et qui auront un impact concret sur la vie des Mahorais, l'engagement de rétablir la production d'eau à son niveau d'avant-cyclone et même d'augmenter la capacité d'ici le mois de juin. Il assure aussi que l'électricité sera revenue partout d'ici fin janvier, soit 1 mois et demi après le passage de Chido. François Bayrou a aussi insisté sur le lancement d'un grand recensement de la population à Mayotte. Il affirme d'ailleurs que ce plan Mayotte debout est une manière précise et concrète de répondre aux préoccupations.
Et parmi les autres annonces du Premier ministre, améliorer la distribution d'eau potable à plus long terme, des prêts garantis par l'État pour aider les victimes et les entreprises, empêcher toute construction de bidonvilles, mais également renforcer la sécurité, notamment la protection des écoles. Avant de quitter Mayotte, le chef du gouvernement s'est dit convaincu d'avoir répondu aux attentes des Mahorais.
Vous avez entendu les applaudissements des élus et vous avez entendu les réactions qu'ils ont indiquées en disant qu'ils trouvaient que les réponses que nous avions apportées ensemble correspondaient à leurs attentes. Par exemple, la création d'une zone franche globale pour qu'on puisse passer de l'économie souterraine à une économie régulière. Et plus important encore à mes yeux, le recensement précis de la population qui permettra de savoir exactement où on en est à Mayotte. Et donc tous ces efforts-là, je crois, ont répondu à l'attente des élus. C'est ce qu'on nous a dit à peu près toute la journée. J'ajoute qu'il va falloir qu'on garde les écoles, parce que les écoles, même intactes, elles sont aujourd'hui si souvent pillées, incendiées. On peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on rétablisse l'ordre et qu'on surveille la protection des écoles.
Des écoles qui rouvriront leurs portes le 20 janvier aux élèves, soit 1 semaine après la rentrée initialement prévue. François Bayrou et sa délégation ministérielle sont à présent dans l'avion direction La Réunion. Eux sont arrivés à Beyrouth, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, les ministres français des armées et des affaires étrangères en visite de 3 jours au Liban. Ils vont passer le nouvel an avec les forces françaises de la FINUL, les casques bleus déployés au sud du Liban. Côté libanais, cette visite est l'occasion de solliciter la France pour mettre fin aux violations de la trêve. Elle est quotidiennement entravée par l'armée israélienne. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, ces violations ont fait une 40aine de morts et une 50aine de blessés. Il y aura un nouveau procès dans l'affaire des viols de Mazan à la fin de l'année prochaine, selon le parquet de Nîmes. 17 des 51 condamnés ont annoncé faire appel. Ils devraient comparaître cette fois devant un jury populaire. Le principal condamné, Dominique Pellicot, n'a lui pas fait appel, Sylvie Coffi.
Une semaine après le verdict, Dominique Pellicot, condamné à la peine la plus lourde, 20 ans de réclusion pour viol aggravé sur sa femme, accepte la décision rendue par la cour criminelle du Vaucluse. Cela contraindrait Gisèle à une nouvelle épreuve, à de nouveaux affrontements, ce que mon client Dominique Pellicot refuse, explique son avocate Béatrice Zavaro. Elle ajoute que ce serait courir un risque inutile en appel, les faits pouvant être requalifiés, une sanction encore plus lourde pourrait lui être infligée. Son client étant âgé de 72 ans et en raison de sa santé, il vaut mieux se battre sur un autre terrain en essayant d'obtenir de la justice un aménagement de peine. Pourtant, un nouveau procès aura bien lieu. Cette fois, devant une cour d'assises composée d'un jury populaire, car sur les 50 co-accusés, il serait 17 à contester le verdict.
Les précisions de Sylvie Coffi.
24 heures en France.
Et moins de 24 heures, Abdelmadjid Tebboune s'est adressé à ses concitoyens. Le président algérien s'en est vivement pris à la France. Il est revenu sur les questions mémorielles dans un discours à la Nation prononcé devant les deux chambres du Parlement. Selon des extraits de sons publiés sur le site officiel de la présidence, le dirigeant algérien appelle Paris à reconnaître ses crimes en Algérie. Alors que les relations entre Paris et Alger sont au plus bas, il exige de la France certains gestes relatifs à la période coloniale. Ouda Ibrahim.
Les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens, a souligné le président Tebboune en revenant sur la période coloniale et la guerre d'indépendance algérienne. Le chef de l'État a aussi appelé la France à nettoyer les sites des essais nucléaires contaminés dans le sud du pays. « Vous êtes devenu une puissance nucléaire », a-t-il rappelé, « et vous nous avez laissé les maladies ». À ceux qui, aujourd'hui, en France, vantent les bienfaits de la colonisation, le dirigeant algérien répond que celle-ci a laissé l'Algérie en ruine. 90% d'Algériens étaient analphabètes à l'indépendance, a-t-il ajouté. Évoquant la question sahraoui, il a affirmé que l'idée d'autonomie est une idée française et non marocaine, soulignant que les options de règlement qu'il propose pour la question du Sahara occidental sont des choix entre le mal et le pire, alors qu'il s'agit d'une question de décolonisation et d'autodétermination. Pour la première fois, le président Tebboune est revenu sur l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il l'a qualifié d'imposteur au père inconnu. Il dit que Sansal est envoyé par la France pour affirmer que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État.
Dans un peu plus d'une semaine, la France commémore l'anniversaire des 10 ans des attentats de janvier 2015. Des hommages seront organisés à Paris en présence d'Emmanuel Macron. 3 hommages aux victimes de Charlie Hebdo, au lieutenant de police Ahmed Merabet et aux victimes de l'hypercachère auront lieu mardi 7 janvier à partir de 11h30 dans les 11e et 20e arrondissements de Paris. Le Conseil d'État rejette les recours de C8 et Énergie 12. Les deux chaînes de télévision ont contesté devant la plus haute juridiction administrative le non renouvellement de leur fréquence TNT. Ce non-renouvellement avait été décidé par l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel. Le Conseil d'État a estimé que la condition d'urgence nécessaire à un référé n'était pas remplie dans ses décisions. Il précise qu'une audience sur le fond aurait lieu dans les prochaines semaines. On prend maintenant des nouvelles du Vendée Globe. Yannick Bestaven, le vainqueur de la dernière édition, annonce son retrait de la course. Il venait de passer le Cap Horn en 11e position, mais il va devoir mettre pied à terre pour réparer plusieurs avaries, notamment sur son système de barre. Il se dirige actuellement vers Ushuaïa, où il sera rejoint par son équipe technique. Cette escale le met donc hors course, le Vendée Globe étant une course en solitaire et sans escale. Malgré la déception, Yannick Bestaven est heureux d'avoir franchi le Cap Horn.
Voilà, et là, le Cap Horn. D'arriver au Cap Horn, même si je dois m'arrêter maintenant à Ushuaïa pour réparer. Eh ben, ça a été une sacrée épreuve et j'aurais fait les 3 caps. Je dois abandonner le Vendée Globe maintenant pour voir la suite, comment ça se passe, si ce bateau est réparable pour continuer mon chemin. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire.
Et pendant ce temps-là, loin devant, les deux leaders, Johan Richomme et Charlie Dalin, toujours au coude à coude dans leur remontée de l'Atlantique. Dalin est repassé devant Richomme au pointage de 19h. Mais attention, car Sébastien Simon n'est jamais très loin. Le troisième a récupéré 240 000 nautiques sur son retard par rapport au leader. Et puis avant de refermer ce journal, rétrospective d'une année rayonnante pour le cinéma français, 2024 aura été riche en productions tricolores et dans tous les styles. Trois des cinq premiers films au box-office sont des productions françaises. Et bien sûr, en tête, Constantin Jallot, La Locomotive, la comédie réalisée par Artus. Un petit truc en plus.
10 ans que cela n'était pas arrivé. La première place du box-office en France cette année revient à un film français. La comédie, un petit truc en plus, a attiré près de 11 millions de spectateurs. C'est le 9e meilleur score de l'histoire du cinéma français.
Tu n'es pas handicapé?
Si, tu veux pas handicapé.
Ça ne voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé.
Réalisé par le comédien Artus, cette histoire de colonie de vacances aborde avec humour et sensibilité le thème du handicap. Le film, pourtant, ne pariait pas sur un gros budget avec 6 millions d'euros seulement. Nous sommes loin des 43 millions consacrés au grand film d'aventure, Le Comte de Monte Cristo.
Vous n'avez donc aucune pitié?
Et eux, allons-ils pour Edmond Dantès?
Deuxième du box-office français, l'adaptation de 3 heures du célèbre roman d'Alexandre Dumas, et dont Pierre Ninet interprète le premier rôle, totalise 9 400 000 entrées. Les 3e et 4e places du box-office sont des suites américaines, Vice Versa 2 et Vaiana 2. Enfin, la romance dramatique L'Amour Ouf occupe la 5e place du box-office. L'histoire d'amour contrarié entre un fils d'ouvrier et une fille de famille bourgeoise, portée par le charismatique duo de François Civil et Adèle Exarchopoulos. Une réussite due notamment au jeune public que le film a su trouver.
Ouais, c'était Constantin Jallot pour cette rétrospective 2024, une année rayonnante pour le cinéma français. C'est la fin de la première partie. Tout de suite, notre invité et on quitte le ciné pour la bande dessinée.
24 heures en France, Mathis Limano.
Elle avait mis en bulle le scandale écologique et sanitaire des algues vertes en Bretagne. Une bande dessinée vendue à plus de 150 000 exemplaires. Inès Leroux revient en librairie avec Champ de bataille, l'histoire enfouie du roman Bremand. Un roman graphique sur le grand plan de modernisation agricole mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a bouleversé les paysages et écosystèmes en France. L'autrice et journaliste Inès Leroux est l'invitée ce soir de Sophie Torlotin.
Bonjour Inès Leroux.
Bonjour.
Pourquoi vous intéresser désormais toujours en bande dessinée et de nouveau avec Pierre Van Hove au roman Bremand, ce grand plan de restructuration des terres agricoles qui a débuté en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale?
En fait, je m'y suis intéressée dès que j'ai mis les pieds en Centre-Bretagne où je suis venue m'installer en 2015 pour travailler sur les algues vertes parce que les habitants parlaient souvent en fait de ce mot, de cet épisode historique. Leurs souvenirs étaient associés à des traumatismes, des lésions paysagères et psychologiques. J'ai cherché des sources sur le sujet et en fait, il n'y en avait pas.
Alors avec le concours d'un conseiller historique, Léandre Mandard, vous montrez, entre autres, hein, parce que c'est une grande enquête, que c'est le régime de Vichy, allié aux grands intérêts économiques agricoles, qui est à l'origine de ce plan.
Oui, mais ça c'est vraiment parce que j'ai rencontré Léandre Mandard que j'ai pu mettre le doigt en fait sur de nombreuses archives et notamment oui, comment la loi sur le remembrement de 1941 est formée donc sous le régime de Vichy.
C'est un plan qui va être repris à la libération de la France sous le modèle américain où il faut faire passer des tracteurs et donc on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de petites exploitations agricoles.
Ouais, c'est ce qu'on connaît mieux de l'histoire du remembrement. C'est en fait ses origines au moment du plan Marshall, de tous ces tracteurs et cette machinerie qu'on va importer des États-Unis. Et en fait, le remembrement tel qu'il a été pensé dans la première moitié du XXe siècle et vraiment formé sous Vichy, c'est un projet d'échange parcellaire. À l'époque, le parcellaire agricole est très très éclaté. L'idée, c'est de réunir ces parcelles et de faire des fermes bien regroupées. Et on pense faire ces échanges principalement dans les grandes zones céréalières type Beauce. On pense au début pas procéder de la sorte dans les zones bocagères où il y a beaucoup d'arbres, de haies, qui sont des zones d'élevage. Et finalement, les géomètres formés notamment dans la Beauce et dans les plaines céréalières vont commencer à penser le remembrement dans l'ouest. On va finir par adapter le paysage au tracteur. Enfin, on va dénuder complètement ces paysages pour pouvoir cultiver les champs par des machines.
Et cela ne s'est pas fait sans violence. C'est aussi toute cette histoire que vous racontez.
Oui, en fait, c'est vraiment l'angle mort. Quand on s'intéresse à ça, bah, on va découvrir que c'est toute une société qui est mise à sac, toute une paysannerie qui est liquidée. Et la paysannerie, à l'époque, c'était pas seulement une profession, un métier, c'était tout un mode de vie, des liens. C'est des millions et des millions de personnes qui vont devoir quitter la terre. Donc on va perdre plus de 90% de paysans.
Inès Leroux, plus de 70 ans après le début de ce plan, vous montrez aussi que ce qui était considéré comme une arriération, le bocage, bon, les haies, les petites parcelles, bah, maintenant on y revient.
Oui, dès 1964, il y a des alertes de chercheurs disant que en fait, ce bocage avait un rôle écologique énorme. Enfin, il protégeait du vent, de l'érosion des sols, il préservait les ressources en eau, il abritait la faune pollinisatrice. Quand il n'y a plus de ces arbres et ces haies, on doit utiliser des pesticides. La biodiversité peut revenir très vite, en fait, quand on reméandrise des rivières qu'on avait rectifiées ou qu'on replante. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui vivent avec ces arbres et qui les entretiennent. C'est ça qui manque, en fait.
Merci beaucoup, Inès Leroux. Je rappelle que votre bande dessinée Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, vient de paraître chez la revue dessinée Delcourt.
À retrouver chez votre libraire préféré. Merci à vous, Sophie Torlotin. À la veille du passage à la nouvelle année, du réveillon, RFI revient cette semaine sur des événements qui ont marqué l'actualité française en 2024. Aujourd'hui, le débat sur la fin de vie. Avant que la dissolution le rende caduque, un projet de loi était en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Le premier volet faisait consensus parmi les députés. Il portait sur le renforcement des soins palliatifs destinés à soulager souffrances psychiques et psychologiques des malades. En revanche, le deuxième volet du texte était lui source de division. Il s'agissait d'autoriser l'aide à mourir, mais sous conditions très précises. Elle prenait la forme d'une assistance au suicide, avec une exception d'euthanasie pour les malades ne pouvant s'administrer eux-mêmes la substance létale. Une légalisation très attendue par certains et redoutée par d'autres, Valérie Cohen.
Mesdames et messieurs les députés, si les soins palliatifs reposent sur une éthique de la vulnérabilité de la personne, l'aide à mourir postule la volonté et l'autonomie du patient sur sa vulnérabilité.
Le 27 mai 2024, après une longue gestation, le projet de loi sur la fin de vie arrive en séance publique à l'Assemblée nationale, introduit par Catherine Vautrin, alors ministre de la Santé du gouvernement Attal. La légalisation de l'aide à mourir représentait un espoir pour Jonathan Denis. Il préside l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
En France, aujourd'hui, vous avez des centaines de Français qui doivent partir à l'étranger, en Suisse, s'ils en ont les moyens, ou en Belgique, pour pouvoir être accompagnés comme ils le souhaitent, c'est-à-dire être accompagnés dans le cadre d'une aide à mourir parce qu'ils sont malades, qu'ils ont des souffrances physiques ou psychologiques insupportables et qu'on ne peut pas les accompagner comme ils le souhaitent en France. Donc l'espoir d'une nouvelle loi a été immense parce qu'on disait à ces Français, nous allons vous accompagner dans votre pays, selon la définition de votre dignité et comme vous l'avez choisi.
Le combat de Jonathan Denis pour autoriser l'aide à mourir trouve sa source dans son histoire personnelle en 2008.
J'ai accompagné moi mon papa dans le cadre d'une aide à mourir clandestine, illégale en France, qui a été pratiquée à sa demande par un médecin parce que mon père avait un cancer généralisé, des souffrances physiques et psychologiques qui étaient devenues insupportables. C'était une demande exprimée par mon père. Il aurait peut-être pu vivre encore quelques semaines, peut-être quelques mois, mais pour lui, il était temps de dire stop.
La légalisation de l'aide à mourir est source d'inquiétude pour le docteur Ségolène Perrucchio, chef du service des soins palliatifs au centre hospitalier Rive de Seine en région parisienne.
Même si personne ne sera obligé de demander une assistance au suicide ou une euthanasie, bien évidemment, de facto, tout le monde va être obligé de se poser la question. Certaines personnes qui sont probablement parmi les plus vulnérables, les plus isolées, ceux qui n'auraient pas les moyens de se soigner, pourraient subir une forme de pression de la société, pression inconsciente, et en se disant bah, « finalement c'est vrai, est-ce que pour moi ça n'est pas la meilleure solution ?» Et ça nous inquiète.
Pour le docteur Perrucchio, l'urgence est de rendre les soins palliatifs disponibles partout.
La priorité doit être à développer les soins palliatifs et on verra à ce moment-là qu'il n'y aura plus beaucoup de demandes à mourir. J'ai en ce moment dans le service une jeune femme qui m'a dit « il y a un mois, j'avais tellement mal que je voulais mourir ». Cette dame, on lui a posé une pompe intrathécale avec de la morphine qui diffuse directement dans le liquide autour de sa moelle épinière. Et aujourd'hui, elle me dit bah « maintenant, ça va beaucoup mieux ». Tout n'est pas réglé, elle n'a pas zéro douleur, mais néanmoins, elle ne demande plus à mourir.
La légalisation de l'aide à mourir, sujet éminemment sensible, continue de diviser.
Une proposition de loi signée par 225 députés et reprenant le texte tel qu'il était avant la dissolution a été déposée et pourrait donc être examinée prochainement au Parlement. RFI, il est 1h passée de 19 minutes à Mamoudzou.
Le journal des Outre-mer.
Et le journal des Outre-mer avec vous, Alex Léveillé. On revient sur le déplacement à Mayotte de François Bayrou. Le Premier ministre a fait plusieurs annonces pour l'archipel dévasté par le cyclone.
Madame, monsieur, bonsoir. Arrivé aujourd'hui à Mayotte avec 5 ministres, François Bayrou, le Premier ministre, a précisé son plan Mayotte debout pour apporter des solutions concrètes au département. Il estime qu'il faudra au moins 2 ans pour reconstruire Mayotte. François Bayrou.
Oui, je pense que c'est un objectif. Si nous savons prendre toutes les décisions nécessaires, c'est un objectif qu'il faut se fixer. Alors vous dites, il y a des tas de gens qui disent ça ne sera pas possible. Ils ont peut-être raison, mais je connais bien cette catégorie. C'est ceux qui disent faut baisser les bras. Je crois et nous croyons qu'on est là précisément pour faire mentir la fatalité, pour qu'on ne s'arrête pas à ce qui paraît possible. C'est tellement énorme, tellement grave, tellement déstabilisant, il y a tellement de problèmes à traiter en même temps. Eh bien tout ça, c'est un défi qui mérite d'être relevé.
Le Premier ministre François Bayrou, il faudra des mois avant de manger des bananes ou encore du manioc à Mayotte. Il faudra miser sur les fruits et légumes de la région. La préfecture vient de prendre un arrêté pour assouplir les règles d'importation des végétaux. Raphaël Kahn.
Habituellement, les règles sont très strictes pour faire venir des végétaux à Mayotte pour éviter l'importation de maladies ou de ravageurs. Mais à situation exceptionnelle, assouplissement temporaire, les contrôles sont donc allégés pour faire venir des fruits, des légumes, des végétaux ou des semences, notamment de La Réunion et de Madagascar, le principal fournisseur en légumes de Mayotte. Un travail est aussi en cours avec le conseil départemental pour identifier ce que les pays de la zone peuvent livrer comme végétaux sans risque pour la flore locale. Ces mesures sont valables pour 2 mois, mais pourront être renouvelées le temps que l'agriculture mahoraise se remette sur pied.
Raphaël Kahn de Mayotte la première. Et en Martinique, Rodrigue Petitot va-t-il retrouver sa liberté? Incarcéré depuis le 5 décembre dernier à la prison de Ducos, le leader du RPRACT et ses avocats ont présenté une seconde demande de remise en liberté examinée ce jour. Un ensemble d'organisations politiques et syndicales appelle à la mobilisation pour sa libération. Aude Goussard, la secrétaire du RPRACT.
On constate que la vieille garde a été au-dessus de nos déclarations qui pouvaient parfois heurté et nous en sommes sincèrement désolés. Maintenant, espérons que les préavis qui courent soient bien enregistrés par les travailleurs et que s'ils ont observé comme nous-mêmes ces 3 dernières semaines que les prix ont drôlement augmenté, qu'ils se mobilisent à nouveau, que l'on boycotte ou que l'on fasse des actions qui permettent de prouver que Rodrigue Petitot n'est pas la cause du problème mais est la conséquence. La vie est chère, les travailleurs souffrent, le social à la Martinique est en berne. C'est normal que les gens ont besoin et aient besoin de se retrouver en famille, chanter leur Noël, prendre une pause. Et ça, nous l'entendons. Donc, la baisse de fréquentation du mouvement n'est que l'expression de cette fête des enfants, qui est Noël, un moment de repli religieux aussi pour les chrétiens catholiques, et donc de se mettre en pause pour redémarrer prochainement.
Aude Goussard au micro de Mike Irask et on rappelle que Rodrigue Petitot a été placé en détention provisoire pour s'être introduit dans la résidence du préfet de la Martinique. Le Père Noël a fait sa tournée de cadeaux auprès des enfants hospitalisés de la MFME. Hier, l'association des étudiants sages-femmes des Antilles-Guyane a distribué des présents aux enfants malades ou nouveau-nés. Xavier Chevalier de Martinique la première.
Le Père Noël et le traîneau ont été remplacés par 5 jeunes femmes et un chariot. Vêtues du t-shirt de leur association, elles déambulent dans les couloirs et rentrent dans les chambres des patients pour offrir des cadeaux aux jeunes malades. Pour les parents présents, la magie de Noël opère, comme pour cette mère dont les jumeaux viennent de naître et sont dans le service de réanimation obstétrique.
Ça fait plaisir en cette période de Noël. Donc merci beaucoup.
Les cadeaux offerts proviennent d'une collecte de dons organisée avant Noël, ainsi que de plusieurs enseignes spécialisées dans les jouets. Pour Cassandra Linzo, la présidente de l'association des étudiants sages-femmes des Antilles-Guyane, il s'agit d'un moment fort en émotion.
Je suis très contente, très heureuse. À la limite, je me compte rien pour ne pas pleurer, parce que je trouve ça très touchant de voir que ça a pu, cette chaleur humaine a pu toucher.
C'était important pour nous de montrer que même si nous ne sommes pas encore professionnels de santé, eh bien, on a déjà la main et la patte à l'édifice.
Ce moment de fête, de partage et de convivialité apporte de la joie aux patients et à leurs familles, mais il permet aussi de redonner l'envie et la force de se battre aux jeunes enfants malades.
Joyeux Noël et bonne fête à vous.
Et oui, même après Noël, c'est toujours Noël. Xavier Chevalier de Martinique, la première, et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Merci et bonne soirée, Alex Léveillé.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
On aborde ce soir le sujet de l'anémie avec la professeure Awa Oumar Touré qui répond aux questions de Caroline Paré.
Professeur Awa Oumar Touré, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes spécialiste en hématologie, responsable du laboratoire d'hématologie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quels sont, professeur, les symptômes de l'anémie ?
Il y a quatre grands signes qui sont communs à tous les types d'anémie parce que les gens parlent d'anémie, c'est vrai, c'est basé sur un taux d'hémoglobine, mais il y a plusieurs types d'anémie. Et les quatre grands signes qui regroupent ces différents types d'anémie sont la dyspnée, c'est-à-dire brutalement on a des difficultés à respirer, on s'essouffle facilement sur 1 kilomètre, ensuite ça devient 500 mètres, ensuite ça devient, au fur et à mesure que l'anémie s'aggrave, le périmètre de marche devient plus court, ensuite la personne ne peut même plus bouger, ça c'est un des signes. En dehors de cela, c'est la pâleur, l'anémie, ça veut dire une baisse du taux d'hémoglobine, c'est ça qui colore nos globules rouges en rouge, donc dans notre sang. On est pâle. Si on a la peau claire, on le voit tout de suite. Sinon, chez nous, on le voit sur la paume des mains, au niveau de la face interne des joues et au niveau des conjonctives. Deuxième signe. Troisième signe, c'est la tachycardie. C'est ce que les femmes appellent souvent les palpitations. Ça, c'est une réaction du cœur à cette anémie qui s'accélère pour compenser le défaut en oxygène. Il en est de même pour le poumon, c'est ça la dyspnée. Et enfin, quand l'oxygène n'arrive plus au niveau des organes, en particulier au niveau des muscles, on se fatigue vite. C'est le quatrième signe, l'asthénie ou la fatigabilité, d'abord à l'effort ou spontané.
Merci beaucoup, professeur Touré.
Voilà qui est bien noté. Merci, Caroline Paré. Bonne soirée. C'est la fin de 24 heures en France. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition. À la rédaction en chef, Dominique Bayard. Merci à Fabrice Violet à la réalisation. Dans 3 minutes, l'édition africaine présentée par Pierre Boudias. Mais avant, on fait un tour à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec vous, Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence une semaine qui sera écourtée par le jour de l'an. Sur une nouvelle chute, un recul de 418 points qui ramène l'indice des 30 valeurs industrielles à 42 574. L'indice du Nasdaq de son côté dégringole de 235 points et revient à 19 487. Les inquiétudes qui affectent le marché obligataire aujourd'hui ne sont pas responsables de ces baisses. Le rendement du T-bond d'à 10 ans retombe même ce soir à 4,54. Après avoir, la semaine passée, vu son plus haut depuis le mois de mai, à 4,63. On apprend pourtant que le nombre de reventes de maisons en novembre aux États-Unis a grimpé au plus haut depuis 21 mois. Dans un volume d'échanges faible toutefois, en raison des vacances de nombreux traders institutionnels, on assiste aujourd'hui à nouveau à des prises de bénéfices sur de grands noms de la technologie qui ont beaucoup grimpé ces derniers mois. Tesla, Meta, Broadcom, par exemple, mais aussi des valeurs liées au secteur des crypto-monnaies, MicroStrategy, Coinbase, Mara Holdings. On note en revanche que Nvidia s'inscrit en hausse. La chute du cours de Boeing pèse sur le Dow Jones. Les autorités coréennes, dans la foulée de la catastrophe aérienne de ce week-end concernant un Boeing 737-800, ont ordonné une inspection d'urgence de tout le système d'exploitation des compagnies aériennes du pays. Plus de 100 appareils de ce modèle sont exploités par des compagnies coréennes. L'euro retombe à 1,0398. Le baril de pétrole américain avance de près d'1% pour finir au-dessus de 71 $. L'indice Dow Jones chute d'1%. Le Nasdaq dérape d'1,2%.
Appel sur l'actualité.
Tous les jours, à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité ?
Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
La Souterraine est le nouvel album d'Émilie Loiseau. Autrice, compositrice, elle nous propose des mélodies rock pour pénétrer la noirceur du monde et s'alarmer de nos vies au bord du précipice. Seul espoir, prendre la route de Vénus, autrement dit chercher l'amour dans un monde en vrac.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.